D'abord, je tiens vraiment à m'excuser d'abord auprès de Véronique et puis de vous. En fait, je suis arrivée à l'heure, mais je suis arrivée malade comme un chien et je me suis reposée à côté. Maintenant, ça va. Voilà, je suis partie très tôt de Paris, mais voilà. Donc, je ne suis pas arrivée à 10h20, comme on pourrait croire, mais bien à 9h. Je suis linguiste, sociolinguiste, pour la recherche à Denis Diderot, c'est-à-dire Paris 7, puisque maintenant les facs s'appellent avec des noms, elles ne s'appellent pas avec de numéros, c'est fini. Donc, la Sorbonne Paris, ou Paris la Sorbonne comme on veut, ex-Paris 4, à l'intérieur duquel se trouve l'IUFM dans lequel j'enseigne. Donc j'ai ma recherche quelque part, mon enseignement ailleurs, pour l'instant en tous les cas. Je pense que vous avez préalablement entendu un point de vue plutôt psycholinguistique sur la question des langues et des langues en éducation, enfin de la langue, du langage. Enfin, j'ai vu qu'il y avait un débat sur langue, langage, sûrement on va y revenir, dans l'éducation prioritaire. Et c'est donc, non pas au titre de la psycholinguistique, mais de la sociolinguistique que je vais intervenir. Et en particulier parce que nos élèves de l'école, l'éducation prioritaire, sont assez souvent, très souvent, bi ou plurilingues. On va dire ça comme ça, et puis on va essayer de regarder un peu dans le détail. Alors, je vous ai donné un plan de l'intervention en trois parties. Je l'ai pas fait exprès, mais c'est comme en trois parties. Donc, avec une petite introduction, ensuite. Qui va reprendre, je pense, des choses que vous avez discutées ce matin sur la question du français scolaire, qui, on va voir comment on peut l'interpréter, assez rapidement, parce que ça, je pense que depuis un moment, dans le séminaire, vous en parlez, dans la formation, et puis par ailleurs, vous savez évidemment beaucoup de choses. Et le point 2, donc, ce sera sur un essai de catégorisation sociolinguistique des élèves, et en essayant de voir quelles sont les fonctions de la langue française pour ces élèves, on va voir qu'elles sont fort différentes, d'où éventuellement des problèmes dans l'accès à la scolarisation, et ensuite une conséquence de cette tripartition pour l'accès aux apprentissages scolaires ou l'entrée dans les apprentissages scolaires, ce qu'on verra tout à l'heure. Alors, en introduction, je dirais que, alors, bon, nous, de notre point de vue, c'est-à-dire des sociolinguistes, dans le réel, des pratiques des gens, il y a toujours de la variation. Donc, dans le réel, le français, ça n'existe pas plus que le espagnol, que le hindi, que le russe. Bon, il existe toujours, premièrement, des variétés, des manières de parler ces langues. Donc, elles varient selon le sexe des gens. Alors, pas tellement en France, mais dans d'autres pays, c'est très important. Elles varient selon l'âge des gens, elles varient selon l'origine sociale et culturelle des gens, selon leur niveau de scolarisation. Alors, tout ça, là, au niveau international, depuis, je dirais, maintenant 60 ans, de merveilleux travaux qui ont montré ça dans plein de pays. Donc, on est sûr de notre fait. La langue, quelque chose, n'existe jamais, c'est un pur artefact. Donc, ce qui existe, c'est de la variation. Concernant la France, quelque chose d'assez particulier qu'on retrouve aussi pour une part en Angleterre, mais pratiquement nulle part ailleurs, qui est un attachement et une culture du monolinguisme, qui d'ailleurs je pense est un frein à l'apprentissage des langues secondes, hein, des langues vivantes, en France je veux dire, qui bien évidemment est extrêmement ancienne, ça fait 5 siècles, hein, mais on a développé, y compris avec la littérature et puis après les idéologues, les idéologies, on a développé l'idée que le français serait un et indivisible, quoi, beaucoup plus que dans d'autres pays. Alors, ce qui fait que, donc, dans le réel des pratiques, on a en vérité toujours de la variation, donc le français, voilà, et parmi cette variété, on va dire variété, moi je dis variété de langue, hein, et parmi ces variétés de français, il y en a une qui nous concerne, c'est le français scolaire. C'est une variété scolaire, de langue, au même titre que le français des Marseillais, au même titre que le français des jeunes de la Courneuve. Alors, au même titre, en termes de description. En termes de valeur, c'est autre chose. Hein. En termes de valeur sociale, il est clair qu'il vaut mieux causer comme à l'école que causer comme les enfants, les jeunes des quartiers nord de Marseille. Ça, c'est certain, hein. Il vaut mieux. Mais du point de vue sociolinguistique, c'est égal. C'est juste qu'on parle pas, on parle de façon différente la même langue. Point à la ligne, quoi. Et on se comprend, alors modulo un peu d'effort, quoi, parce que c'est vrai que des fois, quand les jeunes, ils en rajoutent un peu, on peut avoir un peu des difficultés d'accès au lexique. Enfin, en faisant un peu d'effort, des deux côtés, on y arrive quand même. Et puis, n'y a pas que ça dans les pays, dans tous les pays. Non seulement donc il y a la langue du pays, mettons le français, qui s'éclate en différentes variétés. Et puis en plus, il y a d'autres langues. Parce que bien qu'on soit officiellement monolingue, et que la langue soit la langue de l'État, on va y revenir, on est évidemment comme dans le monde entier, on est un pays plurilingue. Donc il n'existe pas à l'heure actuelle, ça a peut-être existé un peu avant, il y a eu des isolats. Hein. Là, on n'en connaît pas. Il n'y a plus d'isola. Donc partout, même dans les fins fonds de l'Himalaya très haut, les gens, les lieux, les états, les nations, il y a plusieurs langues, on va dire ça comme ça. Après, ce que font les gens, c'est différent, mais il y a toujours plusieurs langues. C'est fini qu'il y ait une seule langue quelque part, si ça n'a jamais existé. Dans certains isolats, oui, ça a existé. Dans certaines montagnes un peu enclavées, on avait une seule langue. Donc, on a donc ça. On a dans le réel, dans la réalité, dans les faits, une langue s'éclate en variété, c'est toujours le cas. Et deuxièmement, dans tous les pays du monde, il y a plusieurs langues qui sont parlées. Alors après, ça dépend comment les gens y font avec au niveau national. Donc, on peut traiter ça par la négative et par le dédain, c'est la France. C'est-à-dire, ça n'existe pas, quoi. Bon, circuler, il n'y a rien à voir. On parle le français, point barre. Ou bien, on peut traiter ça en le prenant à bras le corps. C'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de la Suisse aux quatre langues, c'est le cas du Luxembourg à trois langues, c'est le cas de la Belgique en a deux. Donc, c'est pas le cas de l'Angleterre. Hein. Une fois de plus, on est très proche de l'Angleterre d'un certain point de vue. Hein. Donc, alors l'Allemagne, c'est compliqué. Mais enfin, il y a supposément une seule langue, mais ils reconnaissent absolument les variétés. Hein. C'est-à-dire que quand vous écoutez les retransmissions du Parlement, enfin, même si vous ne comprenez pas l'allemand, quand vous entendez les députés parler, vous voyez bien qu'ils ne parlent pas exactement le même allemand. Donc, on accepte absolument la variation linguistique en Allemagne, ce qui n'est pas le cas de la France. Et du coup, ça fait un peu, on va dire, deux extrêmes. La situation de la France où, pour apprendre une autre langue, les gens ils prennent un temps fou, ils n'y arrivent pas, on passe un temps fou et de l'argent fou pour arriver à ce que les gens ne sont pas bilingues, et des situations de plurilinguisme, comme on dit chez nous, sociétal ou naturel. Je vous donne un exemple. Par exemple, à Taïwan, quand vous êtes hospitalisé dans un hôpital, en tant que malade, vous pouvez avoir comme voisin quelqu'un qui parle une autre langue. Eh bien, si vous restez un peu longtemps, évidemment... Tranquillement, ils apprennent la langue de l'autre. Hein. Donc, on apprend la langue de l'autre pour pouvoir communiquer. Alors, bien sûr, c'est pas la langue scolaire. Hein. On y arrive encore. Hein. Mais ils communiquent. Donc, on a eu des études là-dessus qui montraient que les malades et les infirmières, pas les médecins d'ailleurs, mais les malades, les infirmières apprennent la langue de l'autre, ce qui ne se fait jamais en France. Hein, bien sûr, il y a du plurilinguisme en France. Et en France, la seule chose qu'on a trouvée quand il y a de l'argent, c'est l'interprétariat. Donc, en particulier pour les accouchements, hein, on a des interprètes qui sont là, mais la sage-femme a jamais pensé à apprendre l'arabe alors que ça fait 25 ans qu'elle accouche des femmes arabes. Bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux manières complètement différentes d'envisager les langues et le plurilinguisme. La France a un bout, ça c'est clair qu'on est les champions de ce côté-là. Et puis de l'autre, des gens comme, ou même l'Afrique noire, hein, qui sont champions de l'autre côté, c'est-à-dire que sur un marché plurilingue, un marchand parle froidement 5 ou 6 langues en fonction du client. Donc t'arrives, tu parles créole, je te parle créole, après je vous parle peul, après ça racolait, puis voilà, c'est comme ça. Bon. Donc il y a les deux extrêmes. Hein. Voilà. Bon, je dis pas qu'il y en a un qui est bien, l'autre qui est pas bien, mais il y a les deux extrêmes. Alors, de ce point de vue-là, si on passe donc au premier plan sur la, pour venir, c'était mon introduction, hein, pour cerner la question du français scolaire, c'est de notre point de vue, c'est une variété du français. Alors quand on dit une, je l'ai un peu amorcé tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on minore, loin de là, la fonction fondamentale. Moi, j'ai écrit dans ce sens, hein, aussi, hein, loin de là, moi, je ne minore pas la fonction du français scolaire, et je pense qu'au contraire, on doit mener tous nos élèves au français scolaire, donc je ne suis pas du tout dans une position, je m'en foutiste, tu vois, enfin, bon, comme certains du genre, bon, ils arriveront sur le français scolaire, non, hein, contrairement à la langue maternelle sur laquelle on reviendra. Donc, le français scolaire, c'est une variété de français qui n'est le français de personne, on va le dire sous cette forme-là. Alors, simplement, il y a probablement une plus ou moins grande proximité. La proximité, c'est un mot qu'on utilise, je vous avoue que on est un peu mal quand tu l'utilises, c'est un peu métaphorique, ne me posez pas de questions là-dessus, pas trop. On dit ça, mais bon, c'est un peu difficile à cerner. Mais quand même, on va dire que si vous êtes fils ou fille d'enseignant, vous avez de facto une plus grande proximité avec le français scolaire, mais c'est quand même pas la langue que vous parlez à la maison, hein, qu'un enfant, on va dire même francophone, hein. bon, qui est un fils de petits paysans de moyenne montagne dans le Vercors ou le Dauphiné. Voilà. Vous n'avez pas la même proximité à cette variété de français. Néanmoins, personne ne la parle à la maison. Hein, sinon, ça donnerait... on fait prendre le bain aux enfants. Les enfants, nous allons prendre le bain. Qui veut le prendre en premier ? Je vais le prendre en premier. Bon, c'est hallucinant, quoi. Bon, donc bien sûr qu'on parle pas comme ça. Bien sûr qu'on va dire, et c'est qui va prendre le bain? C'est toi, c'est moi. Vous croyez pas que vous le dites, mais vous le dites. Et vos enfants le disent, et vous allez pas les reprendre. Vous allez pas dire, tant que t'as pas dit qui prend le bain, tu prendras pas ton bain. Sinon, voilà, ils sont très mal, les pauvres. Hein. Donc, on parle, vous, moi, tout le monde, nous parlons une variété de français. On dit vernaculaire, ordinaire, tout ce qu'on veut. Enfin bon, à la maison. Qui est dans le les Américains appellent ça le we code, hein, le code qu'on a ensemble, quoi, celui qu'on a ensemble, hein, et on va dire où t'as encore foutu ce machin là. Ben ça à l'école c'est pas possible, bien sûr, hein, parce que ce machin là c'est on sait pas de quoi on parle, on va devoir donc le français scolaire, et il a raison, hein, il a totalement raison, c'est une autre variété. Et c'est une variété qui, dès la maternelle, ça a été montré, mon Dieu, en 1975 par Claudine Danka, c'est une variété qui, dès l'entrée, les apprentissages langagiers de la maternelle, sont proches de l'écrit. Donc elle avait montré en 75 comment, en maternelle ou en CP, j'ai un peu oublié, mais enfin c'était à ce niveau-là, comment, faisant décrire quelque chose à un enfant, qu'est-ce qu'il y a là, l'enfant disait, des branches, une branche, comme vous voulez, et l'enseignant reprenait, il y a une branche. Bien évidemment, vous vous promenez dans la forêt avec vos gamins, qu'est-ce qu'il y a là ? Ouah, un écureuil ! Vous dites pas, il y a un écureuil sur la branche de l'arbre. Bon, donc on voit bien que c'est un usage du langage qui va être, bon, tu l'as dit, hein, je reviens pas, complètement sans aucune ambiguïté, complètement décontextualisé. Ça, c'est une phrase décontextualisée. Il y a un écureuil sur l'arbre. Si je le vois avec vous, je vais pas dire il y a un écureuil sur l'arbre. Je vais dire éventuellement, oh. Hein, parce que ça suffit, puis j'aurai le geste de monstration, donc ça suffira amplement. Donc le français écrit va avoir donc des propriétés linguistiques. Alors il y a des formes, mais ça on va pas trop y revenir, mais il y a des formes historiquement on a décidé qu'ils ne marchaient plus. Par exemple, il a mouru a été la forme correcte jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. Maintenant on est sur il est mort, mais bon, donc si vous voulez, on a fait le tri historiquement dans les formes. Hein. C'est la fille que je te cause était une forme, alors pas sous cette forme-là, mais c'est le roi que je lui envoie une missive, par exemple, puisque c'était à l'écrit. C'est une forme qu'on a très massivement, XIIIe, XIVe, XVe, XVIe siècle. Puis après, on va faire le tri dans les formes qu'on va accepter, qu'on va pas accepter. Donc, il y a des tris linguistiques, hein, donc il y a des formes, bon, au niveau syntaxique. Il y a évidemment des tris lexicaux, ce bidule, ce machin, ce truc, on va pas vouloir. Et puis, sans revenir trop largement, hein, on en a parlé, il y a des propriétés psycholinguistiques qui sont celles de la décontextualisation, qui sont extrêmement importantes. Alors là, pour le coup, un disciple de Vygotsky, qui était François Bresson, qui est mort maintenant, insistait beaucoup sur le fait que à la fois l'écrit et le français scolaire sont des activités décontextualisées, et c'est souvent une des choses que les élèves ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que quand on est ensemble dans la situation où tout le monde voit qu'il y a un arbre et qu'il y a des branches, il faille dire « il y a une branche sur l'arbre ». Ils ne le comprennent pas, parce que c'est un usage qui n'est pas un usage ordinaire contextualisé du langage. Donc, ce français de scolarisation, français scolaire, français de l'école, hein, c'est comme vous voulez, moi je ne fais pas la différence. Bon, ce français de scolarisation, il va devoir donc être acquis pour tout le monde, aussi bien pour l'enfant francophone que pour l'enfant non francophone. On va y revenir, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Et de ce point de vue-là, on peut avoir donc deux points de vue. Si on a le point de vue externe, celui que je viens de prendre, là, plus ou moins, on va dire que il y a plutôt une discontinuité. C'est-à-dire, ce que je viens de vous dire, hein, on a l'enfant, il a appris une langue qui a certaines caractéristiques, il a appris à parler dans une ou des langues, je mets que francophone pour l'instant, dans une langue qui a certaines caractéristiques, puis il va devoir passer à une variété de langues qui est différente. Je viens de vous le dire, j'ai montré des discontinuités, j'ai montré des ruptures. Mais du point de vue de l'apprenant, c'est-à-dire si on le fait d'un point de vue interne, en fait, il y a évidemment une continuité. C'est ça que d'ailleurs le découpage de l'école en cycles casse complètement, quoi. C'est cette idée que ben, l'enfant il se coupe pas en rondelles de saucisson, hein, en changeant de classe, hein, c'est toujours le même. Et pour lui, il y a une totale continuité entre... Pour lui, je veux dire, alors, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de la pensée et du langage. Bon, on pourrait y revenir d'ailleurs, mais c'était plus compliqué chez Vygotsky d'ailleurs, mais bon. Et donc, en tous les cas, pour lui, pour l'enfant, qui a appris à parler dans une langue, on n'en met qu'une pour l'instant, il a appris à parler dans une langue, il va rentrer à la maternelle et surtout au niveau du CP, et il va devoir entrer dans une variété différente. Mais ça, il va le faire forcément en prenant appui. Il ne va pas se dire, il y a deux langues, youh, j'apprends l'anglais. Non, il va prendre appui sur ses connaissances. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, dans les classes, de moments d'ambiguïté. Parce que l'enfant, il ne sait pas très bien où il est. C'est le coup des arbres. Hein. C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des arbres, quoi. Il va pas faire une phrase décontextualisée. Il répond comme s'il était dans l'acquisition de la langue, quoi. Il est dans le langage ordinaire. Et donc, pour lui, il va y avoir, à la limite, on pourrait presque dire des interférences. Hein. C'est un peu exagéré, mais c'est presque ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir... il va à la fois prendre appui pour passer du français... qu'il a appris à la maison, on va dire le français de la maison, hein, vers le français scolaire, mais il peut y avoir aussi des phénomènes de, comme on fait en linguistique contrastive, on voit qu'il y a des petits bugs, quoi, hein, ça colle pas très très bien. Donc ça c'est pour l'enfant francophone. Alors pour l'enfant, donc lui il y a une continuité ontogénétique, hein, on peut pas dire autrement, et il va faire des activités de comparaison. Alors pas des comparaisons explicites, hein, mais des comparaisons de nature implicite, ce qu'on appelle épilinguistique maintenant. Mais alors pour l'enfant qui a eu, alors on va simplifier là, pour l'enfant qui a appris à parler avec une autre langue que le français, parce qu'après il y en aura plusieurs, on va simplifier là, et qui rentre, mettons, en grande section ou en CP dans une école française. Alors pour celui-là, il n'y a pas non plus, enfin, il y a à la fois une discontinuité parce qu'il va vraiment changer de système linguistique. Donc par exemple, je suis un petit enfant indien, j'arrive, supposons que je parle le hindi, vraiment il n'y a aucun rapport entre le hindi et le français, j'arrive en grande section de maternelle, j'apprends à parler le français et en même temps je rentre dans le français de scolarisation. J'apprends les deux variétés avec mes copains, je ne parle pas le français de scolarisation, je parle la variété vernaculaire, mais j'apprends aussi avec la maîtresse le français de scolarisation. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Ben là, pour le coup, l'interférence, elle joue à fond, et le travail de prise, d'appui que vont faire ces élèves, de comparaison implicite entre les deux systèmes, et qui va donner, alors je vous donne deux exemples, mais faciles parce qu'ils viennent de langue latine, donc un petit enfant de CE1 qui a dit la gonne. Pour dire la jupe, la gonna. Donc il a très bien compris qu'on enlève le A en français, quoi. Hein, en gros, il n'y a pas de finale en A, enfin c'est rarissime, quoi. Donc pour faire un mot, j'enlève le A, donc je fais la gonne. Et un autre qui avait dit la tavole, la ta, voilà. Il avait dit la tavole. Bon, alors ça prouve bien qu'ils sont actifs, hein, pour revenir. Ils sont actifs dans leur tête, même si ça ne se voit pas. Ils sont parfaitement actifs. Personne n'a jamais dit la gonne et la tavole autour d'eux. Donc c'est bien parce qu'ils ont, d'une certaine façon, mené des activités de comparaison entre les langues, hein, qui se sont fabriquées cette règle qui marche de temps en temps et qui marche pas aussi de temps en temps, qui est j'enlève le A. Alors, quand je dis il s'est fabriqué cette règle, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il peut l'éliciter. C'est complètement implicite. Donc, ce qui nous amène, ces exemples, à qu'en est-il de nos élèves aujourd'hui ? Qu'en est-il des élèves dans la France de 2010 ? Et comment peut-on les catégoriser ? Alors, j'ai bien conscience, hein, là, vraiment, vraiment très, très conscience, hein, que toute catégorisation pose problème. C'est un outil pour penser, rien de plus. Hein, et bien entendu que, d'ailleurs, dès que j'ai eu fait ça, j'ai tout de suite eu des exemples d'élèves qui ne rentraient pas là-dedans. Hein. Donc, ça ne permet pas de véritablement faire entrer des êtres humains vivants dedans, parce qu'il y en a qui vont être entre les deux. Hein, ou entre 2 et 4, non, moi j'en ai 3, entre 1 et 3, mais je n'ai pas prévu d'interface entre 1 et 3. Donc catégoriser, c'est vrai que c'est une opération très discutable, mais je pense quand même qu'elle va peut-être nous permettre quand même de faire un peu le tri, et en tout cas pour les enseignants dans leur classe, de ne pas mélanger des situations sociolinguistiques d'apprentissage des langues qui véritablement sont très très différentes. Bon, alors quand un élève est monolingue, quand il est monolingue francophone, hein, pardon, parce qu'on peut être monolingue mais d'une autre langue, quand un élève est monolingue francophone, il va aller d'une variété de français vers le français scolaire. La difficulté n'est pas gravissime, il ne faut pas non plus exagérer les choses. Hein. Si on est très très clair sur ce qu'on fait en classe, là on ne parle pas comme à la maison, là on va écrire et on n'écrit pas généralement à la maison. Donc il y a des apprentissages qui se... ça ne doit pas poser un maximum de problèmes. Là où ça se complique, c'est après. Donc on a après deux autres catégories, c'est là où bon la première catégorie, vous pouvez pas me la critiquer, mais les deux autres, là, c'est là où c'est plus compliqué et on sait bien que ça se... Bon. Donc on a les élèves qui sont... Bon, moi ce qui est important pour moi, c'est en cours d'acquisition du français. Ce qui veut dire que si je les saisissais dans 20 ans, ils passeraient probablement dans ma troisième catégorie. Mais il se trouve qu'on a, quand on prend les choses en synchronie, hein, comme ça, et qu'on prend la population scolaire française actuelle, on a donc des élèves qui sont francophones, qui ont appris à parler avec la langue française, ou dans la langue française, et puis on a des élèves qui ont appris à parler avec d'autres langues, avec un S ou sans S. Hein. Et ceux-là, ils arrivent en France. Ils vont arriver, comme vous savez, évidemment, à des âges très très divers. On les appelle ENA maintenant, enfin peu importe. Bon, en tous les cas, ils sont en cours d'apprentissage du français. Et ça, c'est une situation qui est complètement différente. Et on sait bien, vous et moi, que c'est pas les 9 mois de clean, de cla, même de cri, de FLE intensif qui vont leur permettre, surtout s'ils arrivent tard, s'ils arrivent à 14, 15, 16, 17, 18 ans, qui vont leur permettre d'acquérir le français de communication, plus le français de scolarisation, plus l'ensemble des disciplines scolaires qu'ils ne possèdent pas, modulo les mathématiques qui sont pour beaucoup relativement universelles. Hein. C'est à peu près, on est plus ou moins tous en base 10 maintenant, donc bon, ça va pas trop mal. Donc on sait que ça suffit pas, et donc on sait que la pédagogie de Klein ou de Kla, qui est tout à fait remarquable, elle est très bien à ce moment-là, mais dès que l'enfant intègre les classes ordinaires, comme on dit, c'est là, évidemment, où le bas blesse, et en particulier en collège, encore à l'école élémentaire, ça va, parce que, bon, pour plein de raisons, mais au collège, ça va plus du tout, parce qu'il se retrouve, il a été avec un enseignant, il se retrouve basculé sur X enseignants de X disciplines, qu'il faut bien reconnaître, en général, on n'a pas grand-chose à faire de savoir qu'ils ont, dans leur classe, intégré un petit enfant chinois. Bon, il y a, devrait être, en tout cas à Paris, de très très grosses difficultés sur l'intégration. Donc, ces élèves en cours d'acquisition sont des élèves qui, on va y venir tout à l'heure, hein, sont des élèves qui, eux, ont appris à parler, donc ce dont tu as parlé, dans une autre langue, et qui vont basculer vers le français de scolarisation dans une autre langue. Et enfin, on a une troisième catégorie avec laquelle... qui est très souvent confondu avec la première, partout dans les médias, les classes politiques, tout le monde, hein, je veux dire, ça gêne personne, ça c'est pas que le monde enseignant. Une troisième catégorie, mais qui a rigoureusement rien à voir du point de vue de l'acquisition et du point de vue donc du traitement scolaire normalement, qui sont des élèves qui sont bi ou plurilingues. Alors on met à chaque fois les deux parce que bon, souvent c'est plutôt pluri que bi d'ailleurs. Donc ce sont des élèves qui ont le français, mais avec d'autres langues. Donc ce sont soit des enfants qui sont arrivés, bon, qui auraient pu être des ENA, mais ils sont arrivés à 6 mois, donc on les compte plus, quoi, vraiment très très jeunes, soit tout simplement ils sont nés en France. Donc on va dire c'est ça, hein, ça on va simplifier, donc c'est les enfants nés en France, dans des familles qui ont d'autres langues maternelles, avec un S là aussi, que le français. Donc les enfants qui sont dans cette catégorie-là, sont des enfants, alors soit arrivés très jeunes, je ne vais pas en reparler, hein, parce que c'est un petit peu particulier, ça pose d'autres problèmes, enfin, on va dire ceux qui sont nés en France dans des familles bi ou plurilingues. Donc ces enfants vont avoir comme langus maternellus, avec des S, ils vont apprendre à parler, peut-être, dans plusieurs langues. Alors, Là, c'est là qu'on ne sait pas, parce que c'est là où il faut faire très très attention, il faut aller regarder de très près. Selon les communautés linguistiques, on sait que... Parce que, si vous voulez, en amont, ça pose la question, qu'est-ce que les parents font avec leur langue d'origine, eux ? Est-ce qu'ils préservent la langue d'origine ou est-ce qu'ils ne la préservent pas ? Cas extrême. On sait très bien, par exemple, que les Portugais, qui sont arrivés il y a très très longtemps, hein, c'est les années 50, 1950, je veux dire. On va prendre les Polonais, c'est encore mieux. Les Polonais, ils arrivent en 1880, hein, pour aller travailler dans les mines du nord de la France. Ils ont préservé leur langue, parfois même jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'on a encore... alors ça s'arrête plutôt vers les années 50 un peu, quoi. mais ils ont préservé au moins un siècle, c'est-à-dire 4 générations, hein, c'est énorme, hein, ils ont préservé le polonais langue maternelle. Bon, ils avaient des journaux en langue polonaise, ils avaient une église en polonais, hein, on disait la messe en polonais, bon, etc. Enfin, là où ils habitaient, quoi. Bon, la fermeture des mines, évidemment, a fait que cette communauté... bon, c'est un petit peu compliqué. Si on prend les Portugais, c'est un peu plus récent, c'est pareil. Hein, c'est des gens qui ont vraiment préservé leur langue et qui ont toujours éduqué leurs enfants bilingues et biculturels. Donc, il y avait l'école du dimanche, on va faire de la danse folklorique, de l'accordéon. Il y a les églises en portugais, il y a beaucoup d'églises, enfin beaucoup, pas exagéré, mais il y a des églises catholiques en portugais, où la messe est dite en portugais, hein, dans plus, il y en a ici, il y en a à Paris. Donc ça, c'est des communautés qui préservent beaucoup leur langue. Et puis il y a des communautés qui sont en moins grande loyauté, comme on dit des fois, c'est un drôle de mot, avec leur langue. Enfin, moi je le dis parce qu'on le dit, mais j'aime pas beaucoup. Les communautés du Maghreb sont un peu dans ce cas-là. C'est-à-dire que c'est souvent un usage instable de l'arabe, par les parents, j'entends, c'est un peu comme les Bretons, hein, au XIXe siècle, qui tendent plutôt à pousser leurs enfants à ne pas parler l'arabe. Donc, si vous avez un enfant, on va le faire dans l'autre sens. Quand on a un enfant arabophone qui est né en France, enfin, pardon, un enfant né en France de parents arabes, on ne sait pas si dans sa famille il parle ou pas l'arabe. Évidemment, ça se complexifie si vous avez un couple mixte, puisque beaucoup d'enfants aujourd'hui sont en fait issus de couples mixtes, mettons une maman arabophone et un papa francophone, et là, vous ne pouvez rigoureusement pas savoir ce qu'ils font. Il faut aller voir, est-ce qu'ils transmettent une langue, les deux, d'abord l'une, puis ensuite l'autre, en se disant, ça c'est quand même dommage qu'ils ne parlent pas arabe, donc des fois on a ça, hein, vers 4-5 ans, ils se mettent alors à apprendre l'arabe, parce qu'on se dit, c'est quand même dommage qu'ils ne parlent pas arabe. Bon. Et puis la dernière communauté très différente, c'est les Chinois, par exemple, qui jusqu'à une date récente, alors les parents n'apprenaient pas le français. Hein, les parents chinois qui sont venus en France, ils n'apprenaient pas le français, ils n'apprennent toujours pas d'ailleurs, mais là on est déjà à la deuxième génération, je vous parle de la première, c'est-à-dire à partir de 85. Hein. On commence à avoir des Chinois nés en France maintenant, qui sont adultes, jeunes adultes. Hein. Donc pour la première génération, c'est des gens qui, eux, les parents n'apprenaient pas le français parce qu'ils considèrent qu'ils sont une génération sacrifiée, qui n'existe pas, ils n'existent que pour leurs enfants. Donc, ils n'apprennent pas le français, vraiment juste ce qu'il faut pour se débrouiller dans un métro ou dans un bus, et ils mettent le paquet sur la scolarisation de leurs enfants. C'est ce qui explique que ce soit généralement de bons élèves. Entre autres choses, hein, enfin, je veux dire, ça a des incidences. Alors, les élèves biplurilingues, ils vont donc apprendre le français, soit dans la famille, mais on n'en sait rien, hein, on ne sait pas a priori, soit dans la fratrie. Alors très souvent dans la fratrie, quand vous êtes dernier de fratrie, le premier non, il a parlé l'arabe avec papa maman. Le deuxième, le premier qui est allé à la crèche et à l'école maternelle, bah il commence à amener du français dans la maison. Si vous êtes quatrième de fratrie, c'est sûr et certain que vous parlez le français avec les petits frères et sœurs à la maison. Donc là aussi, quand on est enseignant, faire attention à la place dans la fratrie. C'est pas parce qu'il s'appelle Ben Youssan que il a le même rapport à la langue, parce que justement les grands frères ont apporté le français dans la maison. Ça, c'est obligé. Hein. Ils sont tous scolarisés, les enfants. Ils apprennent aussi le français dans la rue. Ça, c'est fondamental. Hein. C'est dans le groupe de pères, dans la mesure où, contrairement aux États-Unis, les groupes de pères en France sont pluriethniques. Hein, pour l'instant, Inch'Allah, hein, je ne sais pas si ça va durer. Ils sont pluriethniques, c'est-à-dire que vous n'avez pas un groupe de Mauritaniens qui va se battre contre un groupe de Maliens. Ça n'existe pas. C'est le groupe du 104 qui va se battre contre le groupe du 102. Ou Vitry qui va se battre contre Montrouge. Hein. Mais après, quand on regarde les gamins, ils sont de toutes les couleurs et de toutes les langues. Donc on a des groupes pluriethniques. Et du coup, ils ont une seule langue de communication possible, c'est le français. Donc on a beaucoup de chance pour ça, parce que contrairement aux États-Unis, où vous pouvez vivre dans une autre langue. Hein. Vous pouvez vivre en espagnol, hein, aux États-Unis. En France, on ne peut pas. Si vous voulez avoir des copains, il faut passer au français. Alors, ça m'amène à comparer les fonctions du français selon ces trois groupes d'élèves. Et alors là, je pense que c'est peut-être quelque chose dont tu n'as pas parlé, hein, les fonctions des langues, je ne sais pas trop. Bon, enfin, je pense que tu as parlé essentiellement de la première. Hein. Donc, pour l'élève francophone, le français, c'est évidemment la langue dans laquelle il a appris à parler. C'est donc, par conséquence, la langue de sa première socialisation, de ses relations au monde. Mais en plus, c'est la langue de l'État et de la nation. Ensuite, ça va être la langue de tous les apprentissages scolaires, puisqu'il n'y a pas d'éducation bilingue en France, hein, donc on ne fait pas les mathématiques en russe. Donc, sauf exception, je veux dire. Donc c'est essentiellement la langue de tous les... On fait les maths en français, on fait l'histoire en français, on fait le français en français, bien entendu. Donc c'est là où on retrouve le français de scolarisation. Et c'est la langue dans laquelle, avec laquelle il va apprendre à lire et à écrire. Alors là, il y a une espèce de chose très, très homogène, hein, pour un enfant francophone. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de difficultés, hein, mais je veux dire qu'il y a une homogénéité des fonctions. Il n'est pas tiraillé, comme on va le voir, pour un élève qui est en cours d'apprentissage. Alors, pour un élève en cours d'apprentissage, donc clean, cla, etc., c'est pas la langue dans laquelle il a appris à parler. Alors là, c'est certain, hein, puisque cet enfant va arriver à 2 ans, à 4 ans, à 8 ans, à 18 ans, il a appris à parler dans, avec une autre langue, ou plusieurs. Ce n'est pas la langue de sa première socialisation. Ça veut dire que ses relations d'identité, sur lesquelles je dis le mot, mais je ne vais pas plus loin parce que ce n'est pas mon métier, enfin, tout ce qui est sa construction identitaire, il l'a fait dans une autre langue. Alors, c'est la langue, par contre, de l'État et de la nation où il vit, en tant que pays d'accueil. Là, il est en France, maintenant, c'est effectivement cette langue-là. C'est évidemment la langue de ses apprentissages scolaires, ou seulement d'une partie. Parce que si vous arrivez à 8 ans, un Chinois qui arrive à 8 ans, il a été scolarisé à 6 ans. Donc, si cette... Pendant 2 ans, il a appris à lire et à écrire en chinois. Donc, là, on ne sait pas. Hein, si... Alors, évidemment, en plus, on a les non-scolarisés antérieurement, hein, les NSA, qui arrivent généralement au-delà de 14, 15, 16 ans. Bon, pour eux, on dirait que le français va être la langue de tous les apprentissages scolaires, puisqu'il n'a pas été scolarisé antérieurement. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, quand même. Alors, est-ce que c'est la langue dans laquelle... Non, mais je veux dire, par rapport aux autres, c'est une proportion beaucoup plus petite, quoi, je veux dire. Alors, est-ce que c'est la langue dans laquelle il apprend à lire et à écrire ? Ça dépend. S'il arrive à 4 ans, le français, qui n'est pas sa langue maternelle, va être la langue dans laquelle il va apprendre à lire. S'il arrive à 8 ans, il aura appris déjà à lire dans le chinois. Et s'il arrive à 18 ans, il n'a pas été alphabétisé, donc ça va être la langue dans laquelle il va apprendre à lire. Alors, pareil, c'est ou pas la langue, j'ai oublié l'item tout à l'heure, de la découverte des textes littéraires, donc de l'accès à la culture, l'acculturation. Ça dépend de son âge d'arrivée, là, on ne peut pas savoir. Pourquoi j'ai le truc qui arrive comme ça? c'est bizarre. Mon truc est un peu étrange. Donc, je repasse sur l'élève francophone. J'avais je comprenais pas pourquoi je l'ai pas. C'est pour l'élève francophone, le français, c'est aussi la langue qui est prise comme objet de réflexion. C'est-à-dire, c'est la grammaire, c'est le travail métalinguistique. C'est fondamental au confrère Vygotsky dont vous parliez ce matin, hein, pour lequel la grammaire et l'écrit sont l'unique forme d'entrée dans une objectivation de la langue qu'il parle sans le savoir depuis qu'il est petit, quoi. Pour les autres enfants, ça va être la langue, éventuellement avec d'autres, s'il est arrivé de telle sorte qu'il a déjà fait cette activité grammaticale, mettons en anglais, si c'est un petit anglais qui arrive à 14 ans, il aura fait tout ce travail, mais dans une autre langue. Alors maintenant, si on prend l'élève biplurilingue, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, pour l'élève biplurilingue, tout à l'heure, il y aura une comparaison générale à la fin, hein. C'est seulement une des langues dans lesquelles il a appris à parler. Donc, cet élève-là, il va apprendre à parler en bambara et en français, en bambara, en peul, en français. Donc, c'est une des, avec beaucoup de questions là-dessus. C'est une des langues de sa première socialisation. Cet enfant-là se socialise, construit son identité dans 2 langues, ou 3. C'est toujours la langue de l'État-nation, puisqu'il vit là. Alors, c'est la langue de tous ses apprentissages scolaires, éventuellement avec d'autres langues, s'il est dans des dispositifs de langue et culture d'origine, dont je sais qu'ils sont plus ou moins en décrépitude, mais bon, si jamais un jour il revenait, on aurait à ce moment-là, il peut très bien apprendre en portugais l'histoire, par exemple, hein, donc dans ce cas-là, ce serait la langue aussi des apprentissages scolaires. C'est la langue de la découverte des textes littéraires, alors avec une ou des langues, parce que si on prend par exemple les Chinois, en France, il faut savoir que la plupart du temps, ils suivent 2 scolarités parallèles. Hein. Ils suivent la scolarité française et ils sont inscrits à des examens chinois à l'ambassade de Chine. De telle sorte qu'ils aient à la fin l'équivalent du bac chinois, on va dire, et l'équivalent du bac français. Donc du coup, ces enfants-là ont à la fois une scolarité en français, ben oui, oui. Ben oui, ça explique aussi pourquoi ils travaillent tout le temps. Ils ont une scolarité en français et une scolarité dans une autre langue. Pareil pour la langue prise comme objet de réflexion. Si par ailleurs ils ont une scolarité en parallèle, ce qui est assez souvent le cas, hein, pour pas mal de, pour les Portugais aussi, c'est le cas d'ailleurs. Hein. Donc dans ce cas-là, ce sera les deux. Alors je vous ai fait donc un petit récapitulatif. Hein. Si on prend toutes ces fonctions du français, on voit que pour un enfant francophone, c'est oui à chaque fois. que la grosse différence, enfin à mon avis, hein, c'est quand même sur la question de l'apprentissage, apprendre à parler, apprentissage du langage, qui se fait en français ou qui ne se fait pas en français. Donc pour l'enfant qui est en cours d'apprentissage du français, ça s'est fait ailleurs, hein, dans d'autres lieux et avec d'autres langues, et pour le bilingue, ça se fait dans plusieurs langues. Alors, on va revenir après aux conséquences. Donc vous voyez, après j'ai repris. Hein. Donc on peut, si on regarde bien, on va voir que là où il y a un éventuel déficit, c'est du côté de l'enfant en cours, alors que du côté du bilingue, c'est toujours oui et plus. Hein, c'est-à-dire qu'il est à la fois comme le francophone, mais il a du plus. Ce qui est bien sûr une évidence, puisque bien sûr il vaut mieux être bilingue que monolingue, mais on voit bien là, à propos des fonctions des langues, comment un enfant bilingue, a priori, va être plutôt mieux armé par rapport à un enfant francophone qui est monolingue. Hein. Alors, quelles sont les conséquences, troisièmement, pour l'entrée dans les apprentissages scolaires? Alors, au niveau... Bon, je me permets de parler de la situation mondiale, même si, évidemment, on n'en a rien à faire ici, mais quand même, quoi, pour faire un peu d'arrière-plan, quoi. Donc, il est très, très fréquent d'apprendre à lire dans une autre langue, c'est-à-dire d'être apprentissage du lire et du écrire, qui peut se faire dans une, comme l'enfant en cours là, qui se fait dans une autre langue, hein, c'est-à-dire que l'enfant va apprendre à, il parle, mettons, bambara à la maison, il va apprendre à lire en français. Bon, donc il va apprendre à lire et à écrire dans une autre langue. Alors, c'est vrai qu'en France, les enseignants ont toujours tendance à penser que c'est quand même invraisemblable. Moi, j'ai fait un peu le compte, hein. Les 1 milliard de Chinois sont dans ce cas-là, les 1 milliard à peu près d'Indiens, d'Inde aussi. Il faut rajouter pratiquement toute l'Indonésie, plus toute l'Afrique noire. On est au moins à 2,5 milliards ou 3 milliards d'êtres humains, alors pas les enfants, je ne sais pas combien il y a d'enfants, mais d'êtres humains qui sont passés par cette situation, c'est-à-dire qui ont appris à parler une langue et qui ont appris à lire et à écrire une autre langue. Alors on est très démunis, il faut le dire tout de suite, hein, sur même l'UNESCO n'a pas fait d'études un peu en grandeur, enfin où on aurait des... Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, quelles sont les conséquences, en plus, en moins, comment? On est très démunis. De façon parallèle, il faut savoir que dans le monde entier, il y a des revendications permanentes des minorités linguistiques pour que cet apprentissage premier se fasse dans la langue d'origine. C'est par exemple l'espagnol en Floride. Alors ça, c'est un beau cas, puisque bon, c'est les États-Unis, hein, et vous savez qu'ils passent leur temps à faire des demandes d'amendement à la Constitution pour que les enfants de Floride, qui sont pratiquement tous hispanophones maintenant, il n'y a pas beaucoup de WASP là-bas, puissent apprendre à lire et à écrire en espagnol. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas réussi. C'est le cas du berbère au Maghreb. Donc les communautés berbérophones du Maghreb, vous le savez, je suppose, se battent pour que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture se fasse dans la langue berbère et non pas dans l'arabe, tunisien, marocain ou algérien. Donc en même temps, c'est fréquent dans le monde, mais c'est quand même une revendication. Les effets sur la scolarisation, comme je disais tout à l'heure, ben, on les connaît pas, parce qu'il faudrait des études. Il n'y a que l'UNESCO ou l'ONU qui peut faire des choses pareilles. Hein. C'est pas, bien sûr, nous les petits là qui pourrions faire des choses pareilles. Alors, si on revient maintenant en France, la question, donc je vais parler maintenant que des deux catégories, des deux dernières, hein, les élèves en cours d'acquisition ou les élèves bi-plurilingues. Les élèves, par exemple un élève qui était, qui parlait une autre langue, hein, qui a appris à parler dans une autre langue, quand il va rentrer en grande section, il rentre en petite section de maternelle, il va bien sûr apprendre le français de communication avec les copains, avec la maîtresse, et puis très vite, il va se trouver comme les autres face à des dispositifs le permettant d'entrer progressivement dans le monde de l'écrit. Ça veut dire que lui, il a en même temps à faire... Alors, je ne sais pas si vous parlez de surcharge cognitive, j'en sais trop rien, moi je manipule mal ça, mais enfin, il a à faire des tâches qui ne sont absolument pas celles du francophone, puisqu'à la fois il est en train d'apprendre un système linguistique et il va devoir transférer ce système linguistique en cours d'apprentissage dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Alors, à ma connaissance, on ne sait rien là-dessus. Hein. Je veux dire, c'est voilà. Moi, ça fait des années que je pousse des psychologues à quand même essayer de se poser des questions là-dessus. Enfin, tu me diras si tu connais. À ma connaissance, je connais rien. Il y a une seule personne qui avait travaillé là-dessus, c'était Geneviève Vermès, qui a travaillé depuis très longtemps sur l'entrée dans l'écrit des minorités linguistiques. Elle est à peu près la seule. Maintenant, elle est à la retraite, et à mon avis, il n'y a plus personne. Alors, on peut dire que du point de vue positif, parce que c'est pas que négatif tout ça, hein. Enfin, je continue, du point de vue négatif, enfin, ou problématique, on va dire plutôt, il est amené à faire deux choses en même temps qui sont quand même pas rien, hein. Quand l'autre, il n'en fait qu'une, quoi. Il sait parler, il passe à l'écrit. En revanche, si on regarde du point de vue positif, ça suppose forcément, chez cet élève, je l'ai dit tout à l'heure, hein, des formes de comparaison interlangue. Donc il parle bambara, mettons, il est en train d'apprendre le français, il va forcément comparer, hein, c'est ce que j'avais dit sur le fait qu'il y a une continuité pour les enfants, même si pour nous il y a des phénomènes. Bon. Alors, ces comparaisons interlangues, je vais y revenir en conclusion, normalement sont des très bons prédicteurs, un élève capable de faire des comparaisons interlangues est un élève pour lequel on peut prédire que ce sera un élève qui sera un bon, qui entrera bien dans les activités grammaticales. Alors ça, j'y vais revenir, c'est les évaluations européennes de EVA qui ont montré ça, mais on va y revenir, hein. Donc on peut dire que ce qui est positif, c'est que cet enfant qui, dans sa petite tête, là, en langage intérieur, une fois de plus, hein, de façon inconsciente, non consciente, prend appui sur sa langue maternelle ou ses langues maternelles pour aller vers le français écrit, il fait des comparaisons sans le savoir, hein, c'est sûr et certain, il ne peut pas faire autrement de toute façon, il fait des comparaisons, il se fabrique des machins, et c'est plutôt un bon prédicteur pour l'entrée dans la grammaire. Bon. Alors, dernière chose, je pense quand même qu'on est obligé de prendre en compte la question de la distance ou de la proximité entre les langues. Qu'on ne peut pas imaginer non plus qu'un enfant, alors pour prendre les petits chinois par exemple, un enfant qui vient du chinois, qui est une langue qui n'a pas de temps, hein, qui n'a pas d'expression du temps, il est au collège, moi j'ai travaillé avec les enfants chinois des collèges, hein, ils ne s'en sortent pas quand on leur fait les valeurs des temps, parce qu'il n'y a pas de temps chez eux, hein, il n'y a que de l'aspect, comme en arabe d'ailleurs. Mais c'est encore pire qu'en arabe, si j'ose dire. Bon, c'est vraiment qu'une langue aspectuelle, quoi. Donc, lui parler en plus avec ce système temporel épouvantable du français, le passé composé, qui parfois a la même valeur que le passé simple, mais pas toujours, et l'imparfait entre les deux, et le présent qui a toutes les valeurs, c'est épouvantable. Donc du coup, ils ont beaucoup de mal là-dessus, ça c'est complètement évident. On voit bien quand ils parlent qu'ils ont des trucs d'interférence, ils utilisent en fait plus des valeurs modales que des valeurs temporelles. Et quand ils vont faire des rédactions, des dissertations et tout ça, ils ont effectivement un français qui pose problème. On ne peut pas dire le contraire, hein. En revanche, ils sont hyper performants en mathématiques, hein, ces enfants-là. Donc, là, voilà, on a une distance quand même entre deux langues. Si on est en contrastive un peu, là, on a une grande distance entre les deux langues. On ne peut pas le méconnaître, ça, quand même. Hein. Alors, d'où, à mon avis, la nécessité, et je vais en arriver à la conclusion sur laquelle je n'ai pas écrite, enfin, sur laquelle il n'y a rien, que, c'est la compétence 8, hein, du référentiel de compétences, mais je crois que vraiment qu'avec nos élèves des deux dernières catégories, en cours d'apprentissage ou bipurilingue, la nécessité de l'évaluation diagnostique est fondamentale en classe. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de connaître les langues des élèves, c'est pas possible. Il y en a trop maintenant, bon. Mais il s'agit de reconnaître, au sens propre et au sens figuré, de reconnaître qu'il y a une diversité linguistique dans nos classes. Alors, on en fait quelque chose ou pas, on va y venir, mais en tout cas, de la reconnaître. Et pour la reconnaître, il faut la connaître. C'est-à-dire, il faut... Moi, je suis toujours frappée en cette session de formation, pas vous, bien sûr, mais quand je demande à des enseignants lambda, il y a combien de langues, bon, alors ils me répondent sur les patronymes. Je dis, bah oui, bon, enfin ça, bon. Mais voilà, c'est-à-dire que cette curiosité minima, ils savent combien il y a de filles et de garçons, ils savent quelle est la date de leur naissance, ça oui, alors là, vraiment de très près, d'afficher tout ça. Mais on pourrait tout aussi afficher combien de langues sont parlées à la maison. Donc ça, à minima, moi je pense que c'est un truc à minima, il faut qu'on ait dans les classes, enfin surtout, moins au collège bien sûr, mais en tout cas à l'école maternelle et élémentaire, il faut qu'on ait une conscience des langues qui sont parlées par nos élèves. Alors après, il y a un deuxième, ça c'est minima, ça c'est déjà pas fait. Et le deuxième pas, c'est on en fait quelque chose, on n'en fait pas quelque chose. Alors, les démarches, donc j'ai un peu anticipé, les démarches de type EVLang, hein, donc qui sont des démarches reposant sur une méthodologie venant d'Angleterre, qui qui a fait un programme européen, ça a donné un grand programme européen autour des années 2000, ont beaucoup d'avantages de ce point de vue-là. C'est-à-dire que quand... Alors, vous avez un DVD très bien fait qui s'appelle « Comparons nos langues », fait par Nathalie Auger à Montpellier, qui montre bien tout ça. Sinon, il y a nos camarades là de Grenoble qui sont les pionniers de ça en France, donc ils sont pas très loin d'ici. Enfin, je n'ai pas dit plus, c'est par là, d'ailleurs. Oui, parce que je ne suis pas orientée du tout, là. Oui, t'es là, oui, toi t'es là. Non, mais je veux dire plus largement l'IDIL, quoi. Oui, t'es là, oui, je sais bien que t'es là, mais je veux dire l'équipe l'IDIL, voilà. Donc là, ils ont vraiment beaucoup. Ça a été une des équipes qui a le plus participé à cette démarche. Je crois qu'on peut tranquillement faire ça dans nos classes. Et ça permet d'à la fois reconnaître les langues au sens de la connaissance et les reconnaître symboliquement, c'est-à-dire en reconnaître la pertinence. Moi je dirais que la reconnaissance du fait qu'il y a de l'hétérogénéité linguistique dans les classes ne doit être ni stigmatisée ni magnifiée. C'est ni génial d'être bilingue ni catastrophique, c'est juste, ça existe, c'est tout. Moi je plaide juste pour qu'on dise que ça existe, hein. C'est très minime, hein. Je veux dire, au bout de X années, ça fait quand même beaucoup de temps que je suis sur ce domaine, hein. Vous voyez, j'en ai rabattu beaucoup. Je dis au moins que la France accepte enfin qu'il y a d'autres langues qui sont parlées par leurs élèves. C'est ni catastrophique, ni exceptionnel. C'est juste comme ça. Donc, état de fait réel, on reconnaît le réel, au lieu d'être toujours dans le déni. Donc, il ne s'agit pas de magnifier, il s'agit de connaître, savoir que ça existe, quoi. Après, on peut aller vers des démarches plus didactisées comme Evlang ou d'autres, hein. Ça, après, les gens, ils choisissent, mais enfin, quand même, minima, quoi. Alors, après, on peut se dire, y a-t-il, j'en ai terminé, c'est toujours le même problème qu'avec le bilinguisme, hein. Donc, il y a des gens qui pensent que le bilinguisme a des effets négatifs, il y a des gens qui pensent que le bilinguisme a des effets positifs. Alors, je pense que les effets négatifs, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le surcroît d'apprentissage. Il est clair que nos élèves en cours d'apprentissage du français sont placés devant un surcroît d'apprentissage. En même temps, quand on va, ce qui est mon cas, régulièrement dans les clines et les classes, ce qu'on voit, c'est des élèves qui ont une motivation d'apprendre chevillée au corps à 450%, ce que je ne vois pas toujours dans les classes ordinaires. Donc en même temps, on voit bien que ces élèves ont pris conscience de l'importance fondamentale d'apprendre le français de communication et de scolarisation. Mais c'est vrai qu'ils ont véritablement un surcroît d'apprentissage, et peut-être que là, on n'en tient pas assez compte dans l'école française. Les effets positifs et les atouts, moi j'en ai parlé, c'est le fait que de toute façon, vous savez que normalement l'Europe est supposée devenir trilingue. Enfin, je veux dire, les citoyens européens, à terme, non pas doivent être bilingues, mais trilingues. Donc, c'est le but du Conseil de l'Europe, c'est que tous les citoyens européens soient trilingues, donc leur langue, puis deux autres langues. Bon, donc il va de soi que quiconque est bilingue de naissance aura, alors ça on le sait, hein, aura plus de facilité ensuite à apprendre des langues que quelqu'un qui est enfermé dans son système linguistique. Donc, de toute façon, là, pour l'atout de la construction européenne, enfin, pour la relation à la construction européenne, c'est un atout, ces enfants-là, il faut le dire comme ça, même s'ils ne parlent pas des langues européennes, hein, mais ils seront plus à même. Un enfant qui parle trois langues, peut le bambara français, quand vous allez l'exposer à l'anglais, à l'allemand et au portugais, il aura beaucoup moins de difficultés que l'enfant français. Et par ailleurs, donc, l'évaluation européenne, donc dans combien de pays d'Europe c'était déjà ? Evlang, c'est dans combien de pays ? 7 ? Oui, si, c'est quand même, il faut les compter. Enfin, donc 5-6 pays, on va dire, quoi, a montré que, donc, ils ont fait une évaluation très, très bien à la fin, hein, en termes d'évaluation des compétences de ceux qui étaient passés par un dispositif Evlang et non. Et on voit qu'en tous les cas, il y a un ajout, enfin, il y a, je peux vous dire, enfin, les élèves qui sont passés par le dispositif Evlang sont plus compétents dans tout ce qui est réflexion métalinguistique sur la langue. Et ça, on le savait déjà, parce que, enfin, on le savait déjà, on pouvait le prédire, pardon, on le savait pas, mais. Voilà, on pouvait le prédire puisque on le sait des bilingues. On sait que les bilingues, de toute façon, sont des gens qui sont bien plus performants ensuite dans les activités grammaticales. Voilà.